Kiosque Magazine.
Bonjour à tous, nous sommes le 28 novembre 2014. Je m'appelle Charles Roy, je suis en compagnie de Jennifer Vignery. Bonjour.
Bonjour Charles.
Aujourd'hui, c'est le Vendredi fou. Vendredi fou, alors si vous nous écoutez, c'est que vous n'êtes pas en train de faire la queue pour avoir la dernière bébelle tant convoitée par tous. Merci d'être à l'écoute. Et nous aussi, tiens, on offre des rabais aujourd'hui. Je vous offre 50% sur notre émission. Mais non, c'est gratuit notre émission. Mais il y a quelques-unes de nos activités qui sont gratuites, Par exemple, est-ce que Jennifer, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Moi, aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous emmener en Inde, en fait, vous donner envie, dans un premier temps, de découvrir des trésors indiens.
OK.
Ça se passera au Musée national des beaux-arts du Québec. Je vais aussi parler cinéma avec la sortie en salle de Party Girl. Et également parler de musique avec une association pour le moins inattendue entre la musique électronique et la peinture. Pour rester dans l'ambiance musicale, j'aborderai le retour de Dumas, qui nous présente son nouvel album. Et enfin, je terminerai sur une note un petit peu plus sportive, puisque les centres de ski ont déjà ouvert cette année, dû à la précocité des tombées de neige, comme on a pu le voir également ce matin.
Oui. Moi, je vais vous parler de Futur intérieur, une pièce de théâtre écrite par le Théâtre de la pire espèce. Aussi en théâtre à Québec, Midsummer. L'île aux jouets, c'est une exposition au musée McCord et je vous parle de plusieurs expositions destinées au jeune public. L'exposition à Sherbrooke, la suite Fibonacci. Et en musique, Paul Carniello nous offre son 10e opus, The Hardest Part of You May Never Know. Bonne émission. La compagnie figure, et pour cause, parmi les enfants chéris du public, du milieu et de la critique. C'est qu'en 15 ans, les créateurs du théâtre de la pire espèce ont rarement fait fausse route. Avec des spectacles comme Ubu sur la table et Pensée, mais aussi avec une œuvre plus mystérieuse comme Geste impie et Rite sacré, Olivier Ducas et Francis Monti sont parvenus à susciter, à force de talent et de détermination, ici comme à l'étranger, un véritable engouement pour le théâtre d'objets. Ce sont les mots de Christian Saint-Pierre parus dans Le Devoir. Le texte s'intitule « Perdu dans l'espace ». C'est écrit le 27 novembre. Jusqu'ici, Ducas et Monti étaient parvenus à transporter leur fascination pour la mythologie, l'histoire, l'archéologie ou l'architecture en une aventure remplie d'humour et de beauté. Transcender des passions qui sont souvent ancrées dans l'espace ou l'adolescence, rendre justice aux images qui surgissent, alors, en faire un spectacle qui concerne le plus grand nombre, c'est le défi de taille qu'a toujours su relever la pire espèce. Il y a bien, durant le périple spatial des Trois Robert, quelques pirouettes qui font rire. Là, on parle bien sûr du nouveau spectacle, je ne l'ai pas dit, qui s'intitule Futur intérieur. Donc, il s'agit de Trois Robert qui font quelques pirouettes dans l'espace, qui montrent quelques images qui font sourire, quelques répliques qui font mouche. Mais de manière générale, l'équipage semble, dans la galaxie comme sur le plateau, errer sans véritable but. On ne s'empêche pas de se demander pourquoi les parallèles n'ont pas été approfondis sur la conquête de l'espace, les destins de ces trois hommes et la quête existentielle de l'espace humain. C'est un texte écrit par Mathieu Gosselin et Francis Monti, en coproduction avec le Bob Théâtre en France et en Suisse avec le Théâtre de la Marionnette à Genève. Ce spectacle est aux Écuries, au Théâtre des Écuries, jusqu'au 13 décembre.
Je suis venue au monde seul comme tout le monde. C'est seul que je continue ma vie. Adieu le père, je pourrais répondre. C'est jamais moi qui a fait le bruit. Pour imaginer mon allure, penser à nous vendre sous la pluie. Et pour l'ensemble de ma tournure, au plus long d'elle, aux ormes gris. Comme on dit dans la fleur de l'âge, je suis rentrée à factory de coton. Vu que les machines font trop de tapage, je suis pas causeuse de profession. La seule chose que je peux vous apprendre, c'est d'enfiler le bas de coton sur un séchoir en forme de jambe, en partant de la cuisse au talon. Si je pouvais mettre bout à bout le chemin de la factory à maison, je serais rendue, y'a pas de doute, faiseuse de bibelots au Japon. Pourtant à cause de mes heures, je peux pas vous décrire mon parcours. Je vois rarement les choses en couleur vu qu'il fait noir aller-retour. Quand la sirène crie délivrance, c'est le cas de le dire, je suis au coton. Mais c'est comme dans ma petite enfance, la cloche pour la récréation. Y a plus qu'une chose que je désire, c'est de rentrer vite à la maison. Maintenant, j'ai plus rien à vous dire. Je suis pas un sujet à chanson.
Et c'est la belle voix de Lara qui nous chantait « La vie de factory ».
Calqué sur une même recette déclinée dans d'innombrables variations, les comédies romantiques de Hollywood continuent néanmoins de faire mouche. Dans « Midsommar », l'Écossais David Craig fait feu de tout bois pour se montrer de ses clichés, mais il se fait bien prendre à son propre jeu. Car indéniablement, une comédie romantique et presque musicale que nous livrent Pierre-Luc Briand et Isabelle Blais, mais c'en est un drôlement divertissant qui sème un grain de folie réjouissant. C'est Isabelle Hould dans Le Soleil qui vante Midsommar. Son article s'appelle Midsommar, l'amour mal léché, paru le 26 novembre. Tout l'originalité de la pièce repose sur sa forme éclatée qui s'approche du conte plus que du théâtre. Isabelle Blais et Pierre-Luc Briand se pointent sur la scène de cabaret très sobrement décorée pour nous raconter directement l'histoire de leur rencontre, de la folle fin de semaine qui s'ensuit. Deux guitares, quelques accessoires, tout est là pour recréer leur parcours semé d'embûches. Tantôt, ils en font le récit minuté, comme si c'était dans le passé, se relayant l'un et l'autre. Puis, d'un seul bond, ils entrent dans une scène où ils se la jouent au présent, se permettant au passage de nombreux apartés qui les ramènent dans le récit premier. Ça se poursuit avec une chansonnette qui vient ponctuer l'action, ou alors, d'un coup, on se retrouve dans une échappée ludique en dehors de toute nation ou action, en entrant par exemple dans le cerveau de Bob, où se passe justement une conférence donnée par Bob à Bob, façon plutôt habile et assez comique d'exprimer sa crise existentielle à 35 ans. Si quelques échappées sont un peu longuettes et nous font parfois décrocher du récit principal, elles réservent certains des moments les plus amusants de la pièce. Le jeu de perspective et de rupture de ton fait mouche et garde l'intérêt vif. Surtout, ça rend le tout franchement drôle. Isabelle Blais se révèle particulièrement savoureuse dans ses incarnations caricaturales de certains personnages de l'histoire à l'aide de quelques accessoires ou pièces vestimentaires. Vivifiée par la traduction colorée d'Olivier Chouanière et l'originalité des morceaux folk qui entrecoupent l'histoire, Midsommar est un charme irrésistible, un peu artisanal, qui chasse efficacement la grisaille de novembre. La pièce Midsommar, une pièce et 9 chansons, est présentée jusqu'au 6 décembre à La Bordée, dans une mise en scène de Philippe Lambert.
Alors Charles, est-ce que tu es déjà allé en Inde?
Non, mais je rêve d'y aller, c'est vrai.
Eh bien, écoute, il y a une exposition au Musée national des Beaux-Arts de Québec et c'est Caroline Descosses qui nous en parle d'en voir. Des pages d'enluminures sacrées, de poésies persanes et d'albums commandés par les rois s'invitent au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Grâce à l'exposition Inde, miniature du sud de l'Asie du San Diego Museum of Art, ces joyaux indiens initieront le public a un art méconnu de ce côté-ci du monde. Il y a bien sûr le cinéma de Bollywood et ses chorégraphies, la cuisine et la musique, mais que connaît-on de l'art indien ? Probablement pas grand-chose. C'est pourquoi une entrevue avec Marika Sardar, conservatrice adjointe de l'art de l'Asie du Sud et de l'Islam au San Diego Museum of Art, est une occasion privilégiée de découvrir la collection unique présentée au Musée national des beaux-arts du Québec. Erwin Binessard, de qui nous tenons notre collection, l'a bâtie de façon très organisée et possédait des ouvrages et des peintures de différents styles, périodes et régions de l'Inde. En tout, sa collection compte 1400 œuvres, dont une centaine ont été prêtées au Musée national des beaux-arts du Québec. L'idée était de faire voyager le visiteur à travers l'histoire de la peinture indienne, mais sans y aller année par année. Nous avons choisi 4 thèmes afin de montrer comment les peintres travaillaient de façon différente selon les époques. La première partie, enluminure sacrée, présente les œuvres les plus anciennes, vers 1100-1200. La deuxième, vision lyrique, s'intéresse à l'influence persane sur l'art indien, par des œuvres de littérature illustrées. À la découverte de la peinture moghole, elle démontre la richesse des empereurs moghols et leur apport à l'art par des commandes. Finalement, à la manière de la compagnie de 1710 à 1890, montre l'impact de la présence britannique sur la peinture naturaliste indienne. L'exposition a voyagé en Espagne, au Mexique et ailleurs au Canada, mais sa présentation est toujours unique et laissée au musée. Ce qu'il y a de particulier avec le Musée national des beaux-arts du Québec, c'est qu'il a décidé de présenter la collection non pas sur un mur à la façon occidentale, mais à angle. Le musée a créé un environnement très intime, inspiré de la bibliothèque qui sied bien aux œuvres, qui, il ne faut pas se surprendre, sont des pages tirées de livres religieux ou d'ouvrages de mythes, de compilations de dessins ou de calligraphie, et non d'étoiles. Avec fierté, la curatrice termine en disant « Ce sont des œuvres fantastiques, les plus belles de notre collection, qui ont appartenu à des empereurs et à des gens qui appréciaient l'art. » C'est une façon complètement différente de montrer les perspectives, les formes et les volumes. Et pour ajouter à tout cela, le musée a organisé une panoplie d'activités culturelles hautes en couleurs. Concert jazz aux influences indiennes, séances de yoga, spectacles de danse traditionnelle, projections de cinéma de Bollywood, pour vivre la riche culture indienne tout azimut. Cette exposition a démarré le 9 octobre et elle se poursuit jusqu'au 18 janvier au Musée national des beaux-arts du Québec. Hop.
Les musées, c'est pas simplement pour les adultes. Il y a une série d'expositions qui sont dédiées aux enfants. Nathalienne Morissette, dans la presse, nous en suggère quelques-unes de ces expositions. « Des musées à la hauteur d'enfants », c'est son article paru le 24 novembre. Qui a dit que les musées étaient inaccessibles? À Montréal, bon nombre d'institutions muséales conçoivent des visites guidées, adaptées aux petits curieux et organisent des activités de création et de bricolage, dont la plupart sont gratuites, en lien avec les expositions qu'elles présentent. Dimanche matin, Frisquet, 11h. On est déjà à la queue du musée McCord. Sur la place se trouvent quelques adultes et beaucoup d'enfants impatients de monter au deuxième étage et de découvrir l'exposition « L'île aux jouets ». Par leur enthousiasme, ils font régner sur les lieux, que l'on qualifie souvent de sérieux et d'austères, une atmosphère agréable qui donne envie de se perdre au musée pour toute la journée. Avant de partir dans l'aventure de l'île, il faut d'abord faire un arrêt obligé devant une grande table où l'on offre jus et bananes, aliments préférés des nombreux petits singes qui nous suivent tout le long de l'exposition. Le concept, un bateau commandé par des singes, fait naufrage dans une île pleine de jouets. L'île aux jouets a véritablement été conçue pour un jeune public, tout en suscitant l'intérêt des grands. Munis d'une carte et d'un crayon, les visiteurs ont pour mission d'identifier les endroits où ils apercevront les petits toutous singes échoués. Sur la place, les jeunes peuvent résoudre un énorme casse-tête géant en bois où il suffit d'associer la tête, le corps et les pieds avec le bon personnage. Les parents, eux, s'émerveilleront sans doute devant les petites voitures et les camions pompiers vintage qui en ont égayé bon nombre dans les fêtes Noël d'antan. Les visiteurs peuvent aisément faire le tour en 30 minutes, tout juste assez pour conserver l'intérêt des jeunes enfants jusqu'à la fin. Et pour faire durer le plaisir, tout comme comme tous les dimanches, il est possible de s'installer dans l'atrium, sur une des grandes tables garnies de ciseaux, de crayons, de colle et de matériel afin de réaliser un bricolage en lien avec l'exposition en cours. Ben, pourquoi pas se faire artiste à son tour? Lors de notre passage, à l'instar des nombreux petits singes en expédition à l'île aux jouets, les jeunes visiteurs devaient réaliser eux-mêmes leur carte au trésor à l'aide de matériel recyclé. Dernier moment de détente avant le départ, l'heure du conte. Tous les samedis et dimanches, à 11h30 et 14h, on raconte une histoire, toujours en lien avec l'exposition présentée. Avec un tel programme, il y a fort à parier que vos marmots épuisés vous demanderont à la sortie « Quand est-ce qu'on retourne au musée? » Il y a plusieurs activités, plusieurs musées qui offrent ce genre de services et d'expositions. Par exemple, au Musée des Beaux-Arts, il y a une initiation aux natures mortes en faisant du dessin d'observation de pommes, de pêches et de poires. Voilà ce que proposent actuellement les activités de création du Musée des Beaux-Arts. L'atelier a toujours un lien avec l'exposition en cours. En ce moment, il s'agit de Van Gogh à Kandinsky. L'activité a lieu tous les samedis et dimanches à partir de 11h. Elle s'adresse aux petits et aux grands et c'est gratuit. Au Musée d'art contemporain, ce musée a également prévu dans sa programmation des activités pour les jeunes visiteurs, avec les dimanches en famille. Une fois de plus, il s'agit d'expérimenter des techniques de création ayant un rapport avec l'exposition. L'atelier est toujours précédé d'une visite de 30 minutes, gratuite pour les moins de 12 ans. Et finalement, au musée Pointe-à-Calière, dans ce musée, on célèbre l'histoire. On permet aux jeunes et aux moins jeunes de se mettre dans la peau d'un marin le temps d'une visite de l'exposition permanente « Pirate ou corsaire ». Dans un décor de navire, les visiteurs peuvent tester leurs capacités intellectuelles et physiques, tout en apprenant de quelle façon les employés de bateaux vivaient et nageaient, à l'époque. L'entrée est payante cette fois-ci. Alors, toutes ces activités sont dans un musée près de chez vous. Baby, baby, it looks like it's gonna hail. Looks like it's gonna hail. You better come inside, let me teach you how to jive and wheel. Oh, you gotta jump and jive and bend your wheel. You gotta jump and jive and bend your wheel. You gotta jump and jive and bend your wheel. You gotta jump and jive and bend your wheel. You gotta jump and jive and bend your wheel. Icebox looking for a can of ale. Papa's in the icebox looking for a can of ale. Mama's in the backyard learning how to jive and wheel. Oh, you gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will.
Then you will, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you really gotta jump, jive, then you will.
C'était Jump, 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 Jive and Wild, excusez-moi pour mon accent, chanté par Ultra Lounge. Alors ça veut dire il saute, il swing, il se lamente. Bah nous, on a bien swingé en attendant.
Oui, oui.
Parce que c'était vraiment bien.
Et vous pourrez, vous, sans doute bondir lorsque vous verrez, lorsque vous entendrez le prochain article. Je vous donne le titre en mille. La mondialisation vue par les lapins.
Je comprends mieux.
Oui. C'est un texte écrit par Steve Bergeron dans la Tribune le 26 novembre. À Sherbrooke, la plupart des gens connaissent la suite Fibonacci à cause du succès littéraire Le Code da Vinci. Mais cette formule mathématique exponentielle a vu le jour 800 ans avant que Dan Brown s'en serve dans son roman policier. Son créateur, le mathématicien italien Leonardo Fibonacci, l'a publié en 1202 pour résoudre un problème. Combien de couples de lapins obtient-on en un an à partir d'un seul couple de lapins confinés dans un lieu isolé? C'est une bonne question. La suite Fibonacci ne pouvait que convenir à la plus récente exposition de Lucie Duval. Parce que les lapins, il y a pratiquement que ça dans l'installation qui crèche en ce moment à la Galerie d'art de l'Université de Sherbrooke. L'artiste sherbrookoise y a vu tout de suite un lien avec sa nuée de petits rongeurs fabriqués à partir de gants de travailleurs. J'ai utilisé les gants de travailleurs depuis mon exposition « Mes mises » en 2006. J'avais conçu une fausse robe en haute couture avec 576 de ces gants. Pour moi, ils représentent une contradiction. Ce sont des gants de travailleurs, mais aussi des gants de chômeurs. Ils sont fabriqués en Chine et on sait très bien que l'industrie textile d'ici est l'une des premières qui a périclé à cause de la concurrence chinoise. Jusqu'au jour où mon ami m'a appris qu'il allait devenir papa, j'ai décidé de fabriquer un petit lapin pour son garçon avec un de ses gants. En regardant le premier, je me suis dit que je pouvais faire mieux que ça. J'en ai donc fait un autre, puis un autre, avant d'en arriver à une dizaine. Après, j'ai remarqué qu'aucun lapin ne se ressemblait à l'autre et que chacun était empreint de l'humeur de la journée où je l'avais fait, comme un journal intime. Lucie Duval a fini par adopter son idée de cadeau. De toute façon, j'étais vraiment cruel avec mes lapins. Je leur coupais des doigts, je les surturais. Il y avait davantage matière à réflexion sur notre société. Gants beige, gants gris. L'artiste a donc commencé par publier un livre, Histoire attirée par les oreilles, comportant des textes et des photos de 150 lapins. Une œuvre où Lucie Duval portait sa réflexion sur la mondialisation à un autre niveau. J'avoue que c'était un peu désolant. Les doigts coupés me rappelaient le sort des travailleurs mutilés du textile. J'ai donc décidé de les monter sur un carrousel. C'était plus ludique, ça devient une sorte de monument imaginaire. Sauf qu'il me manquait des lapins. Je retourne à la quincaillerie et je m'aperçois que les gants blancs ont été remplacés par des gants beige et des gants gris. Avec ces nouveaux lapins aux couleurs, aux peaux différentes, Lucie Duval a donc pu joindre à son œuvre le versant positif de la mondialisation en y greffant les notions de métissage, de partage, d'immigration, d'éducation et de culture. Ben quoi, comme un événement inattendu comme ça, ça ouvre des portes. Il faut aussi dire que parallèlement, Lucie Duval a lancé un réseau d'adoption international de ses lapins. Les visiteurs de la suite Fibonacci, c'est comme ça que s'intitule l'exposition, doivent donc repartir avec le lapin de leur choix, ont le choix de repartir avec un lapin de leur choix, en moyennant 200 $, avec même un certificat. C'est ma façon à moi de créer un réseau social autre que Facebook, un réseau plus humain. Et aussi un prétexte pour fabriquer de nouveaux lapins et remplacer ceux adoptés. C'est la suite de Fibonacci qu'il veut. La suite Fibonacci est à la Galerie d'art de l'Université de Sherbrooke jusqu'au 21 décembre. L'entrée est gratuite. vais vous lire quelques brèves le temps qu'on est en pause. En musique, les clavecins de Bach. Sous la direction du chef Boris Brott, l'orchestre de chambre de McGill, l'OCM, entreprendra sa saison avec les concertos pour clavecins de Bach, interprétés par quatre clavecinistes, ben oui, assis à la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'est au 1339 rue Sherbrooke-Est. C'est demain à 19h30. En musique, toujours, Marie-Josée Lord, accompagnée de l'ensemble vocal Épiphanie et de son pianiste. Cette soprano interprétera les chansons de son nouvel album de Noël, Ave Maria. C'est au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, au 4000 rue Bousquet. C'est ce soir, oui, à 19h30. En musique, toujours, Évasion scandinave. Le chef de l'orchestre métropolitain, Yannick Inez-Séguin, et le trombone solo Patrice Richer propose des œuvres de trois compositeurs scandinaves. Greg, là, il y a une lettre qui appartient pas à l'alphabet romain, fait que je ne sais pas comment prononcer son nom, mais je vais y aller, je vais faire un essai.
Lance-toi.
Oui. C'est Grondald et Sibylus à la Maison symphonique de Montréal. C'est au 1600 rue Saint-Urbain. C'est dimanche à 15h. Au théâtre, on vous invite au théâtre Prospero jusqu'au 13 décembre pour la pièce de théâtre Avant la retraite. Un frère et deux sœurs règlent leur compte dans cette pièce de Thomas Bernard, mise en scène par Catherine Vidal, qui s'attaque autant aux vestiges qu'aux risques de la résurgence du fascisme. On va en pause et on revient tout de suite avec la deuxième partie de Kiosque Magazine. À tout de suite.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Et puis, on va démarrer cette deuxième partie d'émission en parlant cinéma. Dans le métro du 24 novembre, Marilyn Lothat nous va parler de Party Girl. Mai 2008, Forbach, court-métrage de Claire Burger, repart de Cannes avec le deuxième prix de la Ciné Fondation. 6 ans plus tard, Party Girl, premier long-métrage de la cinéaste co-réalisé avec son ami d'enfance Samuel T. et Marie Amashukeli, reçoit la caméra d'or sur la croisette. Le point commun entre ces films, tous deux racontent l'histoire vraie, ou presque, d'Angélique, ex-danseuse de cabaret et fêtard d'un vétéré qui, par peur de la solitude, décide de se marier à 60 ans. Ce personnage, Samuel T. le connaît bien. Angélique Liesenberger n'est pas que son actrice et son héroïne, c'est aussi sa mère. Quand mon fils m'a demandé si je voulais faire un film sur ma vie, j'ai d'abord refusé, se souvient la principale intéressée. Jouer ne m'effrayait pas, les danseuses sont habituées au regard et à la scène. Mais j'avais peur du jugement des gens parce qu'une mère de famille qui fait du striptease et dont une des filles est en famille d'accueil, ça soulève des questions. Mais Sam m'a sorti du pétrin, de l'alcool et je voulais faire quelque chose pour lui. Finalement, c'est lui qui m'a fait un magnifique cadeau. Ce cadeau, la pétillante retraitée, le partage avec ses trois autres enfants qui, par souci d'authenticité, lui donnent aussi la réplique dans ce film Vérité, tourné avec des acteurs non professionnels et dans l'ancien cabaret de la comédienne. J'ai arrêté le métier il y a 5 ans. Ça me manque beaucoup, même si je n'ai jamais cessé d'être un oiseau de nuit, une party girl. Apprêtée, maquillée, la sexagénaire est dans la vie ce qu'elle donne à voir dans le film. Une femme coquette, attachante, libre, plus grande que nature. Il y a eu des prises de bec au cours du tournage parce que je ne voulais pas faire certaines scènes, embrasser l'homme qui jouait mon mari par exemple. Et puis au milieu du film, j'ai failli tout plaquer, j'étais malade, crevée, je tournais la nuit, mais j'ai tenu bon pour mes enfants. Faire ce film, c'était un moyen de me rapprocher d'eux. Mais pas seulement, car Angélique, sur un nuage depuis le buzz cannois, méritait de ce portrait de femme hors norme, est aujourd'hui prête à rempiler. Mais dans un rôle plus petit, avertit-elle. C'est bien beau d'être l'héroïne, mais c'est du boulot et je n'ai plus 20 ans. Donc juste une petite précision pour Party Girl, c'est en salle présentement, donc vous pouvez aller le voir dès à présent.
Waouh, ça risque d'être fort intéressant. En musique maintenant, Paul Carniello, vous le connaissez sûrement, c'est son 10e album qui vient de paraître, The Hardest Part You May Never Know. C'est un point de vue, oui, écrit par Joanne Martel dans Le Voir le 25 novembre dernier, Marathon Man. Bien qu'il nous ait habitués plusieurs années à nous en mettre plein les oreilles avec The Hardest Part Is You May Never Know, Paul Carniello passe en vitesse supérieure et nous offre une galette explosive à souhait. Alors que certains en profitent pour végéter devant la télé à regarder des reprises de Deux filles le matin, le prolifique Paul Carniello, lui, savoure des moments d'accalmie afin de produire de l'inoubliable. Véritable sprint créatif, The Hardest Part Is You May Never Know, a donc vu le jour à raison d'une chanson par journée, et ce depuis 10 jours successifs. L'exercice aurait pu donner place à un certain essoufflement. Or, au grand contraire, chaque titre proposé sur cet album nous procure une bonne bouffée d'air frais. C'était la situation idéale, d'expliquer Carniello. Comme j'ai un studio chez moi et je possède tous les équipements, je suis capable de faire n'importe quoi. Mais en plus de tout ça, il faut savoir que je n'étais attaché à aucun label lorsque je me suis lancé dans l'album. J'étais comme un agent libre. Donc, chaque jour, je composais une chanson et pendant l'après-midi, je l'enregistrais. Il y a quelques années, Carniello suscitait l'étonnement auprès de son entourage en adoptant un virage francophone. Toutefois, les 10 chansons nées de ce récent processus créatif sont cette fois-ci en anglais. Ici, que personne ne déchire sa chemise, car, au dire du musicien, ce n'était là qu'une simple question du feeling. Ironiquement, si 2 chansons en français ont fini par atterrir sur « The Hardest Part Is You May Never Know », c'est à la demande de sa nouvelle compagnie de disques qu'il a mis des chansons en français. Quand j'ai contacté Stomp Records, ils se sont immédiatement montrés intéressés à distribuer l'album. Du même coup, ils m'ont ensuite fait savoir que ce serait plutôt cool s'il y avait au moins 1 ou 2 pièces en français. J'ai donc repris 2 autres journées afin d'écrire et d'enregistrer 2 nouvelles pièces. Enfin, comme Carniello est désormais à défendre sur ses nouvelles pièces et sur scène, il le fera dans une formule plutôt originale, c'est-à-dire en compagnie d'un seul autre musicien, un batteur. Quant à ceux et celles qui s'inquiètent de la disparition de ses fidèles acolytes de Frontline, ils pourront dormir en paix, car non seulement des membres y apparaissent sur l'album, mais Carniello assure que son association avec le groupe ne sera sur la glace que pour une courte durée. Avant de l'écouter, je vais vous dire quelques spectacles qui sont à venir. Le 25 novembre à Trois-Rivières, le 27 novembre à Montréal, le 28 novembre à Québec, le 29 novembre à Chicoutimi, le 6 décembre à Ottawa, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il jouera le 13 décembre, à Sorel, le 19, à Saint-Casimir, le 20 décembre, et finalement, le 21 février, à Québec, à la salle Le Cercle.
Et c'était l'effet que tu me fais de l'album Papa. Alors on va rester dans l'univers musical avec un mariage un peu particulier entre musique électronique et peinture. C'est Marie-Hélène Chartrand qui nous en parle dans le 24 heures du 26 novembre. Qui aurait cru qu'un jour la création d'une peinture soit le point de départ d'une trame sonore de musique électronique ? C'est précisément ce que le projet électro-acrylique propose. L'objectif de ce projet, c'est de faire rencontrer le low-tech, la peinture, avec le high-tech, la technologie, et de voir comment un peut influencer l'autre. Sur le site internet du projet, on peut lire « Le coup de pinceau a un son. Le son a une forme. La forme a une image. » Quelques mots résumant bien le concept derrière cette production artistique. Des micros sont collés à l'arrière de la toile afin de capter le bruit des pinceaux, puis les sons sont envoyés vers une console et retravaillés en direct par le DJ Pefreud, de son vrai nom Frédéric Laurier. On cherchait à atteindre un effet de feedback, à s'influencer mutuellement dans nos créations respectives, explique Alex Stéphanie. Après une performance électro-acrylique, le public peut non seulement se procurer une toile, mais également la musique composée lors de la création de l'œuvre. Alex Stéphanie a eu l'idée de ce projet en 2008, lors d'un événement à la TOU, où il réalisait une toile en direct accompagnée de musiciens. Ces derniers n'avaient pas de partition et étaient libres d'improviser. Le but était de créer une œuvre picturale et une œuvre musicale qui s'influencent l'une et l'autre, mais à l'époque, il n'y avait rien de branché, se rappelle le peintre. Comme j'ai tendance à peindre assez sec, les pinceaux frottent et ça fait du bruit. Le batteur a eu le réflexe de me suivre, d'imiter ma rythmique. Ainsi, un dialogue s'est amorcé entre les deux artistes. Par la suite, Alex Stéphanie a voulu pousser l'expérience plus loin en utilisant des micros pour capter le bruit des pinceaux. J'ai mis longtemps à trouver quelqu'un qui voulait embarquer dans le projet. Je suis allée voir des réalisateurs de studio, des ingénieurs de son, et ils m'ont tous répondu que c'était quasiment impossible, comme je leur demandais de faire le travail direct en studio. Ce dernier s'est finalement trouvé un partenaire en DJ Pefreud qui aurait répondu à sa proposition « Ça semble impossible à réaliser et c'est pour ça que ça me tente ». Le duo a par la suite mis environ un an pour trouver sa vitesse de croisière. Et on continue toujours en musique où là nous allons parler du retour de Dumas. 3 ans après l'opus L'heure et l'endroit, Dumas est de retour avec un album électropop à la fois dansant et personnel. Et Marie-Hélène Chartrand nous en parle dans le 24 heures du mardi 25 novembre. Tout comme son premier disque, sorti en 1999, Dumas a choisi de ne pas le nommer. D'une part pour ne pas donner de direction à l'écoute et d'autre part pour souligner un changement de direction. Ce disque est un nouveau départ, alors je trouvais ça drôle de recommencer à sortir un album juste avec mon nom, explique-t-il. Pour ce nouvel effort, l'auteur-compositeur-interprète a changé ses méthodes de création et s'est entouré de nouveaux collaborateurs. Pour la première fois en 15 ans de carrière, Dumas s'est associé avec un co-auteur, Alexandre Soublière. Je l'ai contacté après avoir lu le livre « Charlotte Before Christ » et on a commencé à travailler ensemble. C'était spécial au départ et on était deux sauvages qui se rencontraient, s'exclame-t-il. La trame sonore, quant à elle, a été créée avec l'aide de deux nouveaux acolytes, Étienne Dupuis-Cloutier et Jonathan Dauphinet, rencontrés en jouant au hockey. Ils m'ont fait assumer un côté plus pop. Avant, j'étais plus dans l'expérimentation. On voulait revenir à l'intimité qu'il y avait sur le retour des jours, explique-t-il. De plus, les relations de couple sont largement abordées dans cet opus, à la fois entraînant et mélancolique. Même si l'album est empreint de mélancolie, c'est un album qui va vers l'avant, c'est une mélancolie dansante, dit-il.
Je changerai d'adresse, j'oublierai jusqu'à mon nom. Me suivras-tu? Me suivras-tu? J'effacerai nos traces. je couperai les ponts. Me suivras-tu? Me suivras-tu? Je ferai table rase, ne garderai que toi pour un aller simple.
Parlait de Dumas, donc voici sa chanson Un aller simple. Alors, je vais vous emmener faire un petit, pas un long voyage, mais un petit voyage parce que, comme vous avez pu le voir ce matin en ouvrant vos fenêtres, il a neigé et il a neigé un petit peu tôt cette année. D'ailleurs, c'est pour ça que les centres de ski ont ouvert un petit peu prématurément et c'est Samuel Auger qui nous en parle dans Le Soleil du 29 novembre sur la route ouverture précoce des centres de ski. Les centres de ski de la grande région de Québec ouvriront leurs portes plus tôt qu'à l'habitude en raison des nombreuses bordées de neige des derniers jours. Le centre de ski de la station touristique Stoneham a même déjà ouvert ses portes. C'est vraiment une ouverture exceptionnelle, la meilleure ouverture depuis la saison hivernale 2007-2008, s'exclame Lisa-Marie Lacasse, porte-parole pour les centres de ski du Mont-Sainte-Anne et de Stoneham. En 2008, la capitale avait connu un nombre record d'averses de neige. Trois pistes sont déjà ouvertes à Stoneham. L'an dernier, la station touristique avait même battu un record en ouvrant relativement tôt dans la saison le secteur des Bulles. Cette année, le même secteur est déjà ouvert, une semaine plus tôt qu'en 2013. Ça démontre à quel point on avait trop de neige, explique Lisa-Marie Lacasse. Le Mont-Sainte-Anne verra pour sa part déferler les premiers skieurs dès samedi matin à 8h30. 6 pistes seront accessibles, dont 4 contenant uniquement de la neige naturelle. Le massif de Charlevoix lance également sa saison de ski dès ce samedi, où au moins 4 pistes seront prêtes pour assouvir le besoin de skier des amateurs de sport. Il s'agit d'une ouverture record pour le centre de ski qui avait déjà établi une marque en 2013 en ouvrant ses remontes-pentes dès le 23 novembre. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'idée de chanter, mais en tout cas, Ariane Moffat, bah, elle cherche des voix. En vue de la sortie de son prochain album, l'auteur, compositrice, interprète Ariane Moffat invite les plus belles voix à se faire entendre pour la formation d'un chœur qui accompagnera l'une de ses nouvelles chansons. En effet, dans une vidéo diffusée sur YouTube, Ariane Moffat explique ce qu'elle attend de ses collaborateurs d'un jour afin d'enjoliver l'une des pièces qui se retrouveront sur l'opus 22h22 qu'elle enregistre en ce moment avec son complice Jean-Phi Goncalves. « J'ai envie de vous proposer de chanter sur mon album », explique-t-elle dans la vidéo. « Des fois, notre public est un peu abstrait dans notre tête, alors je vous invite à vous transformer en chœur. » C'est facile. Vous allez fredonner la mélodie que je vais vous faire entendre en essayant d'être le plus juste possible. Ensuite, vous mettez en ligne votre petite vidéo. Vous avez chanté sur la plateforme de votre choix, Facebook, Twitter, Instagram. Et l'important, c'est fondamental, c'est de signer le hashtag pour nous permettre de récupérer la matière et en faire un chœur magique. L'opus 22h22 sera lancé le printemps prochain, a-t-elle annoncé, au moment même de dévoiler le titre de ce nouveau projet. Celui-ci fera suite à Ma, son quatrième album bilingue datant de 2012. Ariane Moffat a profité de l'occasion pour annoncer les dates de sa prochaine tournée, qui démarrera les 6 et 7 mars 2015 à Saint-Eustache. Des arrêts sont aussi prévus à l'Impérial de Québec le 1er mai et au Métropolis de Montréal le 22 mai. Elle visitera aussi Ottawa le 16 avril, Sherbrooke, le 24 avril et Saguenay le 30 avril. Il est maintenant venu le temps de vous parler, de vous lire les quelques brèves que j'ai sélectionnées pour vous. Tout d'abord à Sherbrooke. Des lampes à l'huile, comme dans l'ancien temps, mais faites en étain. Des cuillères en bois, comme celles de nos grands-mères, mais sculptées dans des lignes aérodynamiques. Des chandails à l'allure rétro, mais coupées dans du coton bio. Pour ancrer son 25e anniversaire, le Salon des métiers d'art de l'Estrie ne pouvait choisir un thème qui définit mieux son essence que patrimoine et innovation. La soixantaine d'artisans entrepreneurs qui placent leur création en adoption au centre des foires de Sherbrooke depuis mercredi soir sont à cheval entre l'hier et l'aujourd'hui, maîtrisant des savoir-faire ancestraux pour fabriquer des objets uniques, parfois même flyés. Pour reprendre le qualificatif de Diane Ferland, présidente de la Corporation des métiers d'art de l'Estrie. Cette grande boutique éphémère, qui regroupe autant de nichoirs d'oiseaux que de lampes en courge, est ouverte jusqu'à dimanche. Le Cirque du Soleil tout en musique. Au cours de ses 30 années d'existence, au fil de ses 35 productions, le Cirque du Soleil a toujours apporté un soin particulier à l'habillage musical de ses spectacles. Dans le cadre des célébrations de son 30e anniversaire, le Cirque du Soleil propose un grand concert du 13 au 28 décembre à l'église Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Sous la direction de Grégory Charles, 70 choristes et 8 solistes, accompagnés de 28 musiciens, interpréteront des morceaux tirés de Saltimbanco, de O et d'Alegria, entre autres. Jusqu'au 18 janvier, au 1440 rue Sanguinet, en entrée libre, une mise en scène de 100 produits contemporains imaginés au Japon. C'est ce que propose l'objet japonais, une installation du Centre de design de Montréal, qui observe et traduit des déclinaisons de la culture nippone par ses objets et leurs fonctions. Du banal autocuiseur de riz aux lignes pures du Yutampo, le panorama est esthétique autant que pratique. We'll be right back. Et au cinéma, vous pourrez voir le documentaire biographique d'Altman qui nous apprend beaucoup sur la vie spectaculaire du réalisateur Robert Altman. Le cinéma américain lui doit un héritage colossal d'œuvres cinématographiques qui s'échalonnent sur ses 50 ans de carrière. Faisant ses débuts sur les côtés d'Alfred Hitchcock, il remportera un énorme succès en 1970. Avec le long métrage MASH. Puis d'autres films à succès font de lui un maître du 7e art, au plan technique et au plan du scénario. Des acteurs qui l'ont côtoyé, comme Robin Williams, Bruce Willis et Julianne Moore, témoignent de son grand amour pour les comédiens. C'est sorti en salle depuis le 21 novembre. Bonne fin de semaine à tous. Alors, je vous redis de nouvelles fois au revoir et je vous redis merci pour nous avoir écoutés. Et je vous donne bien évidemment rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Kiosque Magazine. Voilà, je vous...